Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droits et devoirs.
Droits et devoirs.
Bienvenue à votre magazine Droits et Devoirs qui s'intéresse aujourd'hui à la question du genre et l'engagement citoyen dans le processus électoral en RDC. Au siècle où nous vivons, siècle où les idées d'égalité et de fraternité exercent un empire général, s'il est un dogme qui a dû échapper à la négation, c'est le dogme qui ramène à l'unité tout le peuple dont se compose le genre humain, donc l'homme et la femme, dont nous évoquons le rôle dans le processus électoral en cours en RDC. Droits et devoirs veulent s'imprégner de la prise en compte réelle de la gestion du genre, sinon de la parité hommes et femmes dans le processus électoral, de l'engagement citoyen du genre, de ses droits et obligations. L'engagement de tout un chacun dans le processus qui se veut pluraliste et démocratique pose les jalons d'une élection non discriminatoire. Quels sont les droits et devoirs du genre dans ce processus? Quel type d'engagement et de comportement doit-il adopter durant le processus électoral? Quels avantages offre le système électoral congolais aux hommes et femmes? Comment gérer les ambitions des uns et des autres en tenant compte de l'égalité des chances de tous au sein des formations politiques? C'est autour de ces questionnements que votre magazine gravite. Pour en parler, nous recevons André Bekambo, coordonnateur du programme d'éducation civique et électorale de la CENCO, et Annie Bambe, défenseur des droits de l'homme. Ce magazine est coproduit avec le concours de Jean-Marc Matouaki. Jeff Ngoyi le présente. Pour commencer, André Bekambo, coordonnateur du programme d'éducation civique et électorale de la CENCO, PCE, explique les droits et devoirs des hommes et femmes dans un processus électoral comme le nôtre, conformément au texte prévu par le législateur.
Le législateur a déjà résolu cette question à travers la constitution qui a été adoptée par le peuple congolais au référendum. À son article 5, il est stipulé « La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par la voie de référendum. » ou d'élection et indirectement par ce représentant. Aucune faction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Sont électeurs et éligibles dans les conditions déterminées par la loi tous les Congolais des deux sexes âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques. Et donc, cette disposition constitutionnelle est pour nous très fondamentale parce que c'est de cette disposition que découle tout le droit et devoir de citoyens et de citoyennes en matière des élections en République démocratique du Congo. La loi électorale qui a été prise en application de cet article met en œuvre le principe de base des élections et définit des modalités d'organisation susceptibles d'assurer le respect de ce principe. Et donc, déjà dans le préambule de cette loi, on peut lire que la représentation paritaire homme-femme est une exigence au niveau de la loi, au niveau de la Constitution. Et donc, la parité, ce n'est pas quelque chose qu'on invente, c'est quelque chose qui est tout à fait légal. Et donc, il y a des femmes et des hommes qui doivent participer dans les conditions égales et qui ont l'égalité, qui sont égaux devant la loi, qui ont le même prérogatif. Et donc, à partir de là, on peut définir tout un tas de droits que les gens doivent avoir par les élections, mais aussi les devoirs qui les incombent. Il y a l'égalité dans les conditions d'accession au pouvoir. Donc, on n'a pas dit ici qu'il y a une priorité aux hommes. Il y a un autre droit qu'on a, c'est qu'on a le droit et qui est aussi une obligation de respecter les résultats du scrutin. C'est-à-dire, une fois élu, on ne peut pas dire que c'est une femme qui a été élue ou c'est un homme qui a été élu. On est obligé de respecter les résultats de scrutin. Mais le devoir que nous devons avoir, c'est d'abord de nous former et de former, si possible, sur le droit et les devoirs des électeurs sur le processus électoral. Et donc, dans notre pays, un problème important que nous avons, c'est que beaucoup de gens ne veulent pas se former. Il y a beaucoup d'informations qui passent de manière diffuse dans notre société. Maintenant, avec les médias sociaux dans les villes et dans le milieu de jeunes, mais il y a beaucoup d'informations qui passent, mais il faut les scruter parce que ce ne sont pas toujours des sources sûres. Il faut vraiment aller si on fait un test aujourd'hui, combien de gens ont lu la loi électorale du début à la fin? Combien de gens ont lu la Constitution? Chaque fois qu'il y a un problème, combien cherchent des textes officiels pour le lire? Et donc là, il y a un grand défi.
Un problème de lecture.
Et oui, donc il faut s'informer. Mais la formation va au-delà de s'informer sur les dispositions légales qui ont été prises. La formation, c'est aussi qu'est-ce que c'est que la politique? Comment ça s'agit? Pas de manière académique, très rhétorique. Non, ce n'est pas de cette manière-là. Si vous vous intéressez à la chose politique, mais c'est tout un domaine assez autonome, monde sur le plan technique. Et donc, il faut savoir comment ça fonctionne, ses méthodes, ses manières et tout. Et donc, se positionner par rapport à ça pour agir. Alors, il y a un devoir de veiller au bon déroulement des élections. Et c'est peut-être là, je rejoins plus votre question fondamentale, nos droits et nos devoirs dans les processus électoraux. Ce que veiller au bon déroulement des élections, c'est un devoir citoyen qui n'est pas laissé simplement au gouvernement, à la CENI, mais se laisser à tout le peuple congolais. Et donc, nous devons savoir détecter à temps ce qui menace le processus électoral, risque de le faire discréditer, hein, mais aussi faire des propositions constructives pour permettre de sortir des impasses, pour permettre de résoudre des problèmes et pour permettre d'avancer. Et donc là, c'est un devoir de chaque citoyen. Et donc c'est un peu une espèce de corollaire à le premier devoir, parce que nous sommes des peuples de qualité, donc nous sommes à mesure de détecter des injustices, des tentatives de fraude, les fraudes elles-mêmes, et nous sommes capables de proposer des alternatives et des améliorations pour faire progresser le processus. Et donc, ça, c'est un devoir. Mais nous devons aussi, ça c'est un peu en lien toujours avec le premier, quand on s'informe, nous, comme électeurs, on doit pouvoir s'informer et informer sur la vie privée et professionnelle, politique même des candidats qui se présentent devant nous, des personnes qui ont des ambitions. On doit être à mesure de les connaître, de les faire connaître à la population. Faire connaître leurs motivations profondes, leur vision,
leur programme.
Leur programme, leur capacité de gouverner, les valeurs de leurs promesses électorales, quand les personnes les font, parfois sont des promesses très farfelues. Ça, c'est un devoir pour nous de faire cette recherche. Qui veut avoir le pouvoir, à quel niveau, quelles sont ses capacités, quelles sont ses visions, qu'est-ce que réellement on peut attendre de cette personne, qu'est-ce que la personne peut réellement nous donner. Alors, nous devons avoir l'intégrité morale nous-mêmes, et ça, c'est l'aspect éthique qui intervient. On a parlé beaucoup plus des aspects intellectuels, des capacités et tout, mais il y a l'aspect éthique ici. Après l'aspect technique, nous devons avoir la lucidité intellectuelle, bien sûr, mais il y a aussi l'intégrité morale pour résister aux manipulations diverses des politiciens. Des promesses farfelues, des slogans séducteurs.
Et souvent, on assiste à des campagnes au cours desquelles les candidats jettent des t-shirts, de l'argent.
Oui, mais c'est ce que j'appelle les corruptions. Il y a ça. Il y a pas seulement des promesses, il y a de la corruption. Il y a aussi des illusions qu'ils donnent. Parce que quelqu'un m'a posé la question, mais on vous donne des t-shirts dans les campagnes. Qui avons-nous vu dans une fête habillé en t-shirt d'un candidat? En fait, ce sont des trompe-l'œil. Peut-être s'ils donnaient des chemises, des pantalons, des pagnes sans leurs effigies, mais des pagnes wax hollandais, ça on peut comprendre que c'est quelque chose de valeur, mais vous amenez votre t-shirt et vous me prenez, moi comme tableau d'affichage, pour que je me promène avec votre visage partout et faire votre campagne, et pour ça, je dois vous être en plus redevable, parce que je suis votre tableau d'affichage, je dois voter pour vous, et je dois même me battre, je dois faire du tribalisme, je dois faire tout parce que vous m'avez donné un t-shirt.
Parce que chaque citoyen a des droits et devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, nous en parlons dans votre magazine Droits et devoirs. Mieux connaître vos droits pour bien défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Retrouvez Jeff Ngoyi tout le mardi à partir de 6h30, 13h30 et 20h30, tous les jeudis à 9h15.
Merci à vous tous qui nous rejoignez en cours de diffusion. Nous parlons de la question du genre et de l'engagement citoyen dans le processus électoral en RDC. Après les explications de l'expert électoral de la CENCO, André Bekambo, nous allons suivre à présent la défenseure des droits de l'homme, Annie Bambe, actrice de la société civile. Elle défend les droits et devoirs de la femme dans le processus électoral et évoque la cause de la sous-représentation dans les institutions publiques.
Le processus électoral, c'est un espace dans lequel les hommes et les femmes s'engagent pour choisir les dirigeants, les représentants dans différentes institutions afin qu'ils rendent service en leur nom à la population. Et en ce qui concerne la femme n'est pas restée en marge, elle avance aussi. Elle suit l'homme, on peut le dire de cette manière-là, parce que depuis les millénaires, quand ça avait commencé, la femme était mise à côté. côté. Mais maintenant, en ce qui concerne notre pays, nous voyons que la femme, elle est debout. Elle veut aussi participer à la gestion de la chose publique. Et là, elle peut le faire concrètement aussi par la voie des élections. Nous n'avons pas des droits particuliers. Tous les droits de l'homme sont les droits de la femme. Mais il faut des mesures un peu particulières, les mesures un peu discriminatoires en faveur de la femme, parce que la femme a été laissée de côté depuis longtemps. C'est pourquoi il faut booster un peu, l'attirer un peu par des réglementations pour qu'elle arrive au même niveau des droits que l'homme, l'homme en tant que masculin. Mais sinon, les droits humains, ce sont les droits et de la femme et de l'homme.
Vous avez aussi des obligations.
Tout à fait. Nous sommes tenus à respecter les lois et les réglementations de la République.
Alors, de quelle manière vous vous impliquez dans ce processus électoral?
Déjà, à l'étape où nous sommes de l'identification des électeurs, les femmes congolaises se sont levées pour sensibiliser. Vous savez, la sensibilisation, c'est la femme qui l'a fait, surtout dans des organisations féminines, et s'est mise debout pour sensibiliser les femmes, sensibiliser des hommes à aller aux élections et aussi participer au processus en tant qu'électeur. Et pour participer en tant qu'électeur, il faut aller prendre sa carte d'électeur parce que c'est ça qui va lui donner le pouvoir d'aller voter, d'aller désigner les dirigeants qui auront assumé les responsabilités d'État dans notre pays.
Est-ce que vous êtes en train de sensibiliser la population à aller se faire enrôler, notamment dans le Kasaï?
Oui, au niveau du Kasaï, je voudrais parler du Grand Kasaï, Kasaï Central et Kasaï, où nous avons des collègues, des partenaires qui ont déjà commencé la sensibilisation. Et moi-même, je vous informe que je vais descendre au niveau du Kasaï Central pour sensibiliser et m'enrôler, parce que moi, je ne suis pas encore enrôlée. Je vais aller m'enrôler au Kasaï Central.
Et quelles peuvent être les conséquences de la non-participation de la femme dans un processus électoral comme le nôtre?
Ah non, mais elle sera non-partante. Elle ne participera pas. Donc, elle aura des dirigeants qu'elle n'aurait pas choisi. Elle n'aura pas un droit de demander les comptes aux dirigeants parce qu'elle n'a pas participé au processus. Elle n'a pas fait un choix judicieux.
Mais lorsqu'on se rend dans la plupart des centres d'inscription, là où je suis passé, on réalise qu'il y a une forte présence des femmes dans les centres d'enrôlement. Il y a moins de femmes qui sont représentées dans les institutions, notamment au Parlement.
Oui, vous savez, il y a un grand problème qui freine la femme, c'est d'abord la pauvreté de la femme. La femme n'a pas le pouvoir économique, suite au système dans lequel nous vivons, n'a pas le pouvoir économique d'affronter avec les mêmes armes sur le terrain d'élection les hommes. Et cela est accentué par rapport aux lois que nous avons, qui ne favorisent pas la pleine participation de la femme aux élections. Par exemple, si nous prenons la loi électorale, révisée jusqu'à ces jours, la loi numéro 015/001 du 12 février 2015 qui a modifié la loi de 2006. Dans cette loi, à son article 15, alinéa 4, il y a une disposition qui n'amène pas la femme à jouir de sa pleine participation. Vous allez voir que dans cet article, on vous dit que les partis politiques présentent les listes électorales paritairement, hommes-femmes. Mais un autre alinéa contredit cette
disposition.
Énonce que non, la non-réalisation de cette parité n'annule pas la liste. Vous voyez que c'est une disposition qui ne contraint pas les partis politiques à placer les femmes sur les listes électorales. Vous verrez aussi que dans des partis politiques, il y a des ligues de femmes. Mais des ligues, c'est juste, on dirait, des canaux juste pour la mobilisation des femmes pour élire seulement les hommes. Lorsqu'on arrive au niveau de présenter les listes électorales, vous allez entendre les mêmes partis politiques qui ont plusieurs femmes dans les ligues des femmes vous dire que non, nous n'avons pas de femmes à présenter. Donc, c'est vraiment un problème qui se situe au niveau institutionnel. C'est un problème qui se situe au niveau aussi socio-culturel avec nos coutumes. Vous savez que la femme n'est pas appelée à gérer, n'est pas appelée à prendre le pouvoir. Et ça, c'est encore ancré à nous. Et nous-mêmes, nous favorisons cela parce que vous savez, même quand nous avons nos enfants, vous avez un garçon et une fille qui ont 8, 7 ans, 9 ans. À cet âge-là, nous les traitons de la même manière. Même pour des petites tâches ménagères, vous allez envoyer et le garçon et la fille allez le faire. Mais lorsqu'ils arrivent à l'âge de la puberté, vous verrez que c'est la maman, c'est le papa qui écarte la fille à la gestion Et ça, c'est un problème qui est ancré dans notre mentalité. C'est pourquoi je recommande qu'il faut vraiment la sensibilisation. Il faut vraiment qu'on arrive à changer de mentalité par rapport au pouvoir de la femme.
Et se disent que c'est une affaire des hommes.
Voilà, c'est leur rôle. C'est le rôle que la société leur a donné. Elles vivent avec ça. Or, ces rôles, on peut les changer.
Relève de l'ignorance qu'il faut briser. Voilà. Vous faites comment pour briser cette ignorance?
C'est par la sensibilisation. C'est par la sensibilisation. C'est la seule manière au niveau de la société civile que nous pouvons le faire. Nous sensibilisons les partis politiques, nous menons le plaidoyer auprès du gouvernement, auprès des gouvernés, on mène le plaidoyer auprès du Parlement pour que la situation au niveau institutionnel change et que la femme se batte avec les mêmes armes que l'homme.
André Bekambo nous revient encore sur les difficultés de l'application de la parité dans un processus électoral.
Pour revenir à la question de la parité, à mon avis, il y a deux difficultés à ce niveau. La première difficulté, ce sont des difficultés liées à la femme elle-même, en fait. C'est-à-dire, la femme veut se jeter dans le terrain politique. En se jetant dans le terrain politique, la femme doit faire de la politique. Et la politique, ce n'est pas une aventure. Quelqu'un avait dit, il n'y a que des aventuriers qui pensent que la politique est une aventure. La politique, c'est un domaine très délicat qui demande beaucoup de technicité. Il faut suffisamment d'intelligence et de volonté et surtout beaucoup d'engagement. Il faut s'engager, prendre des risques et faire vraiment de la politique. Mais j'ai comme l'impression que la plupart des femmes veulent des postes de galanterie et ne veulent pas se jeter vraiment dans la politique.
Ils attendent qu'on leur serve leurs droits sur un plateau.
Voilà, c'est un peu ça. Si vous regardez, nous avons plus de 500 partis politiques. Je ne sais pas s'il y a 50 partis politiques qui ont été créés par les femmes et qui sont dirigés par les femmes. Et donc déjà, par rapport à cet indicateur, c'est-à-dire montrer les ambitions politiques des femmes, on peut dire qu'elles sont faibles. Or, en politique, si vous n'avez pas d'ambition, comme j'ai dit, si vous ne vous engagez pas, si vous ne prenez pas de risques, ça va être très difficile. Donc ça, c'est une première chose. Et toujours dans ces volets, il n'est pas nécessaire de créer des partis politiques. Mais est-ce que dans les partis qui sont là, les femmes y vont pour occuper quel poste? Est-ce que c'est seulement pour être, comme je vois dans les ONG, elles sont toutes des caissières, mais est-ce que c'est pour occuper un poste de direction au niveau de l'organe politique du parti, ou c'est pour servir de secrétaire ou de danseuse, parfois? Et ça, c'est la femme elle-même qui doit déterminer ce qu'elle doit faire. Et donc, si elle va dans un parti politique pour servir à un niveau secondaire, c'est clair que ce n'est pas elle qui sera ministre, c'est clair que ce n'est pas elle qui sera sur la liste de parti. Et donc, les premiers tests politiques, c'est qu'elle se batte avec les hommes qui sont dans son parti, qu'elle puisse gagner le bataille à l'intérieur de son parti pour parvenir à s'inscrire sur la liste et avoir les appuis de son parti politique. Parce que demain, elle sera obligée de se battre au niveau de la nation pour défendre les intérêts de toute la nation, pour défendre les intérêts de tout un pays et parfois contre les intérêts d'autres pays.
Toutes les femmes ne sont pas dans des partis politiques. Il y en a qui sont dans des organisations de la société civile et qui se présentent sur les listes des indépendants.
La politique, c'est vraiment dans les partis politiques. Au niveau de la société civile, il peut y avoir une ou deux personnes qui font de la politique, mais la réalité, la politique pour conquérir le pouvoir, c'est au sein des partis politiques. Les ONG n'ont pas l'ambition de conquérir le pouvoir. Et même la plupart des personnes qui commencent par la société civile en cherchant des postes politiques ont fini par se convertir en politicien dans les partis politiques. Et ces personnes ont créé des partis politiques ou ont adhéré aux partis politiques qui existent et ont continué leur combat politique au sein de ce parti politique. Et je crois que je n'ai rien contre les indépendants. Peu importe le statut, qu'elles soient indépendantes ou pas, mais la femme est obligée de faire de la politique comme indépendante ou au sein d'un parti politique. La même chose, je dis si elle entre dans un parti politique, mais elle doit conquérir sa place au sein de ce parti politique plutôt qu'attendre une promotion qui lui vienne des hommes pour leur bon vouloir. Ça ne devrait pas être un cadeau, parce qu'il y a certains domaines dans lesquels on ne se fait pas de cadeaux. Elle doit pouvoir convaincre les électeurs à voter pour elle plutôt qu'attendre qu'on vote pour elle simplement parce que c'est une femme. Je crois que ce n'est pas ce qu'on attend d'elle. On attend d'elle d'être des vraies femmes d'État, des vraies femmes responsables qui prennent les choses en main et qui réussissent là où les hommes ont échoué. Et là, elles doivent donner de la preuve.
Radio Okapi.
Droit et devoir.
Nous sommes toujours ensemble sur la fréquence de la paix. Droits et devoirs se poursuit avec l'expert électoral de la CENCO qui explique cette fois-ci le système électoral congolais, la problématique des listes ouvertes et bloquées lorsqu'il s'agit de la parité hommes et femmes.
Un autre élément peut-être qui peut aider la femme, c'est le système électoral. Parce que le système électoral actuel ne peut pas garantir la parité. Avec notre mode de scrutin, le scrutin à liste ouverte.
Liste ouverte.
Et donc, les femmes peuvent se battre dans les élections uninominales, c'est-à-dire quand il n'y a qu'un seul poste, bon, elles peuvent se battre et gagner le seul poste qui existe. Et donc, elles l'ont déjà fait, mais pas beaucoup. Mais quand il s'agit des assemblées, par exemple, où il y a la liste, très souvent, elles sont là, mais n'arrivent pas à remporter. Alors, là, il faut peut-être une réforme des systèmes du mode de scrutin. Prendre le liste zébrée. Et là, il y a eu un grand débat. Déjà en 2005, 2006, pour les premières élections après Sun City, pour ce genre de liste. Parce que ce sont des listes bloquées. Or, les listes bloquées, la plupart des gens trouvent que c'est une espèce de tricherie. Ce n'est pas très démocratique par rapport à la démocratie.
Les listes bloquées sont en quelque sorte exclusives.
Dans les listes bloquées, nous avons un système proportionnel chez nous ici. Et quand vous avez des listes bloquées, l'ordre ou la préférence est imposé par le parti politique. C'est-à-dire, s'il y a 10 postes à pouvoir, le parti politique va présenter de listes d'au plus 10 candidats. Et si un parti politique remporte 3 sièges, par exemple, et donc, on va prendre 3 personnes sur la liste. Mais voilà comment ça fonctionne. Quand il s'agit d'une liste bloquée, soit-elle zébrée, on prend les 3 premiers sur la liste. Et quand il s'agit des listes ouvertes, comme ce que nous avons actuellement, on regarde au sein de ce parti sur la liste de candidats, on prend les candidats qui a réalisé le meilleur score. Vous voyez. Et donc, ici, sont les électeurs qui imposent l'ordre.
Le plus fort reste.
Donc, oui, là, on peut entrer dans les calculs des sièges et tout ça.
Donc,
mais le principe, c'est celui-là. C'est-à-dire, quand vous avez une liste ouverte, c'est les électeurs qui imposent l'ordre et la préférence. C'est-à-dire, les électeurs ont préféré le parti bleu, et dans le parti bleu, ils ont préféré tel candidat. Tandis que dans le liste bloquée, fut-elle zébré, on dit les électeurs ont préféré le parti bleu et dans le parti bleu, on demande au chef du parti de désigner la personne, c'est-à-dire le chef du parti qui établit la liste. Il dit s'il y a une place, c'est le numéro 1, celui-là. S'il y a 2 places, c'est celui-là et jusqu'au dernier. Alors, ce qui arrive souvent, c'est qu'on peut prendre une personne très populaire sur une liste de 10 personnes. La personne est au numéro 10. Tout le monde choisit cette liste-là pour la personne qui est au numéro 10. Mais, malheureusement, le parti ne gagne que 4 places et donc on prend les 4 premières places. Et donc, mais ça donne un avantage aux femmes parce qu'on peut imposer la liste zébrée, c'est-à-dire si le numéro 1 sur la liste, c'est un homme de tête d'affiche, le numéro 2 doit être une femme. Si c'est une femme qui commence la liste, le numéro 2 doit être un homme. Et donc, si c'est les hommes qui sont dans les numéros impairs, les femmes sont les numéros pairs. Si c'est les femmes qui sont dans les numéros impairs, les hommes sont dans les numéros pairs. Ce qui fait que, quel que soit le niveau où on va couper la liste, les hommes ne peuvent dépasser les femmes que d'une unité ou les femmes ne peuvent dépasser les hommes que d'une unité. Et donc, comme ça, on a l'avantage d'amener dans les assemblées délibérantes des hommes et des femmes, mais dans des proportions assez respectables.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droits et devoirs.
Droits et devoirs.
Avant de conclure avec nos deux invités, Annie Bambe formule quelques recommandations en vue de satisfaire la parité.
Et la grande recommandation, c'est au niveau de nos institutions, que ce soit au niveau du Parlement, au niveau du gouvernement, au niveau du président de la République et les cours et tribunaux. On voudrait vraiment qu'on modifie la loi électorale, les dispositions qui ne favorisent pas la pleine participation de la femme aux instances de prise de décision. Et qu'il y ait une instauration des listes alternées. Moi, je défends qu'il y ait une instauration des listes alternées hommes-femmes ou femmes-hommes pour des circonscriptions à au moins 2 sièges. Et aussi qu'on ajoute une disposition dans la cooptation. Vous voyez, par exemple, pour les assemblées provinciales où on coopte les chefs coutumiers. Mais il peut y avoir aussi une disposition positive en faveur de la femme où on peut aussi coopter la femme la mieux élue, mais qui n'a pas obtenu un siège. On peut la coopter au niveau, par exemple, de la ville de Kananga. Il n'y a jamais eu de femme élue. Au niveau de Maniema, il n'y a jamais eu de femme élue. C'est pas normal.
Est-ce que la femme elle-même n'est pas victime de ses propres turpitudes? Parfois, on dit que l'ennemi de la femme, c'est la femme elle-même.
Mais c'est justement ça le discours que l'homme est en train de propager. Et la femme qui ne comprend pas, qui n'est pas avertie, tombe dans cela. Mais sinon, si les femmes comprenaient un jour qu'on pouvait utiliser notre majorité majorité numérique, qui est de plus de 52%, pour diriger ce pays, je crois que les hommes viendront demander le pouvoir auprès des femmes.
Pour conclure avec vous sur cette partie, on peut comprendre que vous avez un grand rôle à jouer. Vous n'allez pas attendre qu'on puisse vous offrir sur le plateau tout ce que vous réclamez. Vous avez des droits que vous devez exercer. Vous avez aussi des obligations. Et on espère que vous vous y employez pendant ce processus électoral pour les faire prévaloir.
C'est justement pour ça que nous sommes debout, nous ne baissons pas les bras. Quand bien même nous sensibilisons, nous allons nous enrôler. Bon, les statistiques de la CENI nous disent que c'est les femmes, jusque-là c'est à 48%, alors qu'en 2006 on était à 52%. Mais nous nous battons pour les circonscriptions qui restent, où il n'y a pas eu encore l'enrôlement dans le Grand Kassai, que les femmes s'enrôlent massivement.
On écoute encore la réaction de Bekambo au sujet de la cooptation que souhaite Bambe, qui conclut l'émission par une invitation à l'engagement citoyen de tout le monde dans le processus électoral.
La cooptation ressemble beaucoup plus à une nomination en réalité. Ici, je parle des élections comme un mécanisme démocratique, c'est-à-dire une consultation de la population, et la population s'exprime et choisit son représentant. Et donc, au niveau de la cooptation, on ne pose plus la question à la population.
Là, ce sont les élus.
C'est une instance à une autre niveau
qui décide
au nom de la population. Or, ici, c'est une compétition où tout le monde s'engage et la population dit, je choisis pour moi les meilleurs, c'est telle personne. Et donc, tous ces mécanismes sont possibles au niveau politique, mais sont critiquables par rapport à la démocratie. Que ce soit le liste bloqué, que ce soit la cooptation, sont des mécanismes qui sont là. Il existe des parlements au monde qui permettent qu'une partie du parlement soit nommée par le roi ou par le président de la République.
Comment conclure sur le rôle et l'implication de l'homme et de la femme dans le processus afin qu'ils réussissent?
La réalité, c'est qu'il faut que tous nous engagions. À mon avis, il faut un engagement de tout un chacun. Chacun devra, à son niveau, voir à quel niveau il veut agir et jouer le rôle des personnes qui doivent agir à ce niveau. Je vais être plus concret. Si je décide de me présenter comme candidat, mon rôle sera justement de présenter à la population un programme qui correspond avec le mandat que je veux demander à la population. Et donc, me préparer suffisamment à ça et je dois pouvoir m'engager. Je dois réunir les moyens mais m'engager aussi à mener ces combats-là. Et donc ça c'est une première chose. Mais si on se positionne comme électeur, c'est-à-dire qu'on n'a pas les ambitions de poser sa candidature, on doit encore s'engager de manière à faire un bon choix et aider les autres à faire un bon choix. Ça signifie qu'il faut connaître et faire connaître les différents enjeux, les différents défis auxquels on est exposé sur le plan national par rapport à ces élections et aider aux personnes peut-être le moins informées à connaître ça et à opérer un bon choix. Mais ça demande toujours un engagement quelque part. Et donc, le rôle que nous devons faire, avoir, c'est essentiellement un rôle de veilleur de notre communauté, soit en lui proposant des programmes et en se proposant à le gouverner, soit en l'aidant à choisir parmi les programmes qui seront proposés et des personnes qui vont se présenter pour mettre en œuvre ce programme, choisir le meilleur.
Voilà qui tire ainsi à la fin de cette émission qui a gravité autour de la question du genre et de l'engagement citoyen dans le processus électoral en RDC. Nous recevions deux invités, en l'occurrence Annie Bambe, actrice de la société civile, et André Bekambo, coordonnateur du programme d'éducation civique et électorale de la CENCO. Ce magazine a été coproduit avec le concours de Jean-Marc Matuaki. Jeff Ngoyi Mulonda vous l'a présenté. Merci à vous tous qui nous avez suivis et bonne suite de nos programmes. À mardi prochain.